13h01, on est en attente du point de presse du premier ministre du Québec qui devrait commencer dans quelques minutes. Aujourd'hui, c'est un point de presse où il devrait être question de sport. Parce que oui, je vous en ai parlé en début d'émission, on sait que les restaurants devraient ouvrir à l'extérieur de Montréal le 15 juin. Cela étant dit, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont faire l'annonce. À ce que j'ai compris, ça va aller seulement lundi la semaine prochaine. Donc lundi, ils vont nous annoncer le protocole pour la réouverture des restos. Mais aujourd'hui, il va être question de sport. D'ailleurs, la personne qui accompagne le premier ministre aujourd'hui, ce ne sera pas la ministre de la Santé, ça va être la ministre des Sports, justement, Isabelle Charest, qui va être avec Horacio Arruda et François Legault. Donc, qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer? On s'attend à ce que ça soit une annonce, possiblement, sur les équipes sportives. Donc, peut-être la reprise du sport d'équipe, notamment le baseball, soccer, football, etc. Est-ce qu'il va être question des gyms? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent cette question-là. Est-ce qu'il va être question seulement de sport extérieur ou intérieur? Parce que je sais qu'il y a bien des gars des arénas qui veulent savoir s'ils vont pouvoir jouer au hockey puis à partir de quand. Donc, ça aussi, ça fait partie des questions qu'on se pose aujourd'hui. Il y a aussi la question de les autres types de sports. Jusqu'où ça va être quoi la liste? Est-ce qu'il va y avoir une liste détaillée, complète? Ou est-ce que ça va être de façon générale? Ils vont-tu laisser une marge de manœuvre aux villes? Est-ce qu'on va différencier les régions? Est-ce que ça va être encore, comme dans plein d'autres domaines, la région de Montréal, ça va être un petit peu plus tard. Puis la région, les autres régions du Québec, notamment ici à Québec, bien nous autres, ça va être un peu plus tôt. Ça, on n'a pas de réponse pour l'instant. On va avoir ça dans le point de presse. Le bilan du jour, bien ça, vous le savez déjà, il est déjà sorti. Il y a 91 nouveaux décès aujourd'hui au Québec. Mais on dit qu'il y en a beaucoup là-dedans que ça date d'avant, là, il y a plus d'une semaine. Les nouvelles qui sont très encourageantes, puis on sait que les chiffres sont bons, c'est que les hospitalisations sont en baisse significative et les soins intensifs aussi descendent. Écoutez, on est rendu à peu près à 1000 personnes qui sont hospitalisées de coronavirus au Québec présentement. On en avait 1700 il y a un peu plus de deux semaines. Donc, on a pratiquement réduit de moitié le nombre de gens dans nos hôpitaux. Donc, ça, c'est d'excellentes nouvelles. Il y a quelqu'un qui me disait, est-ce qu'on va aussi autoriser les marathons? Excellente question en tant que coureur. Ça m'intéresse d'avoir réponse à ça. Il y a des gars qui se demandent s'ils vont pouvoir aller à la pêche entre boys. Ça aussi, il y a beaucoup de monde qui aimerait beaucoup ça. Puis ça, d'ailleurs, honnêtement, je sais même pas pourquoi ils ont pu empêcher ça. Sérieux. Aller à la pêche dans le bois, y a-tu quelque chose de moins dangereux pour pogner le coronavirus? Puis c'est deux d'une chaloupe, là. On s'entend-tu que c'est pas ça qui est le plus dangereux? Le sport intérieur, même le sport intérieur, moi, je pense qu'ils n'auront pas le choix. À un moment donné, je veux dire... Puis les gens qui se tiennent dans les gyms, les gens qui font beaucoup de sport, c'est normalement les gens qui sont les moins à risque aussi. Faut jamais oublier ça, là. Ce sont des gens qui sont normalement un peu plus jeunes puis un peu plus en santé. Donc, normalement, c'est pas les gens qui sont les plus à risque. Donc, ils sont en train de s'installer tous les trois à leur fauteuil. Les trois enlèvent leur masque. Les trois étaient masqués. On va aller joindre, donc, à l'instant, le premier ministre du Québec, François Legault, en compagnie de sa ministre des Sports et de son directeur de la Santé publique. Voici François Legault.
Bonjour tout le monde. Bien, d'abord, le masque que je porte aujourd'hui a été fabriqué par Anaïs Sabourin, avec parrainage civique Vaudreuil-Soulanges. Anaïs a 15 ans. Elle est handicapée, elle est en chaise roulante et fait beaucoup de revendications. Elle se bat pour que plus de commerces, plus d'entreprises soient plus accueillants pour les personnes qui sont en chaise roulante. Donc, j'appuie ces démarches-là, puis je fais un appel à toutes les entreprises, les services qui sont donnés. Assurez-vous que quand on déconfine, mais aussi essayons de déconfiner pour les personnes qui sont handicapées, puis rappelons-nous que c'est la semaine québécoise des personnes handicapées. Aujourd'hui, je suis accompagné du docteur Arruda, mais aussi de notre championne olympique, la ministre Isabelle Charest, qui a des bonnes nouvelles pour les sports d'équipe, travailler très fort et avec la santé publique et avec les fédérations de baseball, de hockey, de soccer, etc., etc. Moi, j'adore voir des jeunes faire du sport. Mes gars sont surtout au skate de ce temps-là, là, mais bon, les sports d'équipe, je me rappelle quand j'étais jeune, on se posait pas la question. Si on voulait être avec nos chums, on jouait au baseball l'été, au hockey l'hiver. Là, je sais que l'été, c'est rendu plus le soccer que le baseball, quoi qu'il y ait encore du baseball. Donc, évidemment, il va y avoir des protocoles, ça va se faire graduellement. Je vais laisser Isabelle vous expliquer. Là, on va commencer par les entraînements, mais on pense que d'ici la fin du mois, on pourra avoir des matchs. C'est ça qui est le fun aussi, une fois qu'on s'est bien entraîné. Donc, Isabelle va expliquer tantôt les règles puis comment ça va fonctionner. Je veux revenir sur la situation de la pandémie. Bon, vous le voyez dans les chiffres, là, quand on regarde les chiffres des dernières 24 heures, quand on regarde les hospitalisations, quand on regarde le nombre de cas, on s'en va dans la bonne direction. Par contre, beaucoup de personnes me disent qu'ils sentent un relâchement actuellement. Donc, on voit malheureusement, entre autres à Montréal, moins de gens que des masques, trop de gens qui sont à moins de 2 mètres. Là, donc, je pense que le docteur Ouda va dire la même chose que moi. Là, il faut... personne ne veut revenir en arrière. Donc, soyons prudents. Si on veut continuer d'aller vers une vie qui est un peu plus normale, faut pas voir ça. Là. C'est pas une bonne chose, c'est pas une bonne idée de voir qu'il y a un relâchement actuellement. Un mot sur les tests avant-hier, donc les derniers chiffres, on a fait 12 500 tests, mais vous le savez, on veut en faire 14 000, 16 000. Là, il faut avoir des gens qui acceptent de se faire tester. Donc, je lance un appel, là, tous ceux qui ont des doutes, là, soit côtoyer de trop proche quelqu'un ou peu importe le doute que vous avez, allez vous faire tester. C'est important pour qu'on sache et qu'on connaisse bien la situation. Un mot sur notre fameux site que j'ai lancé il y a seulement 2 jours pour recruter 10 000 préposés en CHSLD, des préposés qu'on va former du 15 juin au 15 septembre. Bien, ça a été au-delà de toutes nos attentes. On est rendu à 79 000 applications. C'est un beau problème. Je veux d'abord vous remercier, tout le monde, d'avoir répondu à l'appel. Puis je veux vous dire que dans les prochaines heures, vous allez recevoir une demande, un questionnaire. Être bien certain que vous êtes prêt à travailler de soir, de nuit, parce que ça peut arriver dans les premiers mois, les premières années, qu'on travaille de soir, de nuit. T'es en train de regarder aussi, compte tenu du nombre, là, pour vous demander certains engagements, là, pour travailler un certain temps, étant donné que le gouvernement, donc tous les contribuables, paye pour la formation. Et puis, je veux vous dire, oui, avec les gens de la fonction publique qui ont une formation en ressources humaines, on a comme mis en place une espèce d'armée, là. Ils vont faire des entrevues téléphoniques à tous ceux qui répondent aux conditions de base en fonction du CV. Donc, on vise toujours, là, 15 juin, c'est dans une semaine et quelques jours, là. Donc, on va travailler très fort dans les prochains jours. Et puis, encore une fois, merci. Un mot sur l'impact sur les résidences privées. Bon, vous avez vu beaucoup de réactions, résidences privées qui se disent, étant donné que vous payez mieux, on va perdre du personnel. Bon, d'abord, on va le savoir, là, d'ici la fin de la semaine prochaine, on va savoir c'est qui les 10 000 personnes qui sont choisies. Donc, on va savoir exactement le nombre de personnes parmi ces 10 000 qui viennent de résidences privées. Bon, vous le savez, depuis le début de la crise, on a aidé les résidences privées, entre autres avec le 4 $ de l'heure qui est payé par le gouvernement. On va continuer d'aider là, avec la permission des gens, étant donné qu'on a 79 000 applications, 10 000 emplois. Ça veut dire qu'il y a une soixantaine de milliers de personnes là qui sont intéressées. Puis, je veux rappeler aussi, les gens qu'on choisit, ce sont des gens qui n'ont pas de formation comme préposés aux bénéficiaires. Donc, on n'est pas en train d'enlever des préposés aux bénéficiaires à des résidences privées, là. Ceux qui avaient à transférer du privé au CHSLD public l'ont probablement déjà fait parce que actuellement, si on calcule toutes les primes, là, les gens, les préposés dans les CHSLD publics gagnent déjà 49 000, puis il y a déjà beaucoup de postes qui sont ouverts depuis plusieurs semaines. Donc, les personnes qu'on va aller chercher, ce sont des personnes qui n'ont pas de formation. Donc, ça va nous faire 10 000 personnes de plus qui ont une formation. Donc, je pense qu'il n'y a personne qui peut être contre ça. Puis évidemment, là, ça serait injuste de pas prendre ceux qui peuvent venir de certaines résidences privées. Mais je veux quand même dire, là, avec le président du Conseil du Trésor, on est en train de regarder ce qu'on peut faire, entre autres, pour les résidences qui sont, en guillemets, conventionnées, donc où c'est le gouvernement qui place un certain nombre de personnes dans des résidences privées. Puis, bon, pour ce qui est des résidences privées, bien là, on regarde aussi la situation. Il y a des petites résidences privées qui vont peut-être avoir besoin d'aide financière. Il faut comprendre aussi qu'il y a des grandes résidences privées qui vont devoir augmenter les salaires qu'ils payent à leurs employés. Là. Donc, bon, mais ce sont des entreprises là qui sont là pour quand même aussi faire des profits. Je veux revenir sur la situation du nombre de décès puis les fameux fax, là. Monsieur le docteur Ouda a subi quelques-unes de mes colères depuis 3 mois. Écoutez, mes deux gars savent même pas c'est quoi un fax, là. Donc, juste pour vous dire comment c'est archaïque. Et c'est pas une affaire qui date d'hier, là. On n'a pas investi dans les 10, 15, 20 dernières années assez dans l'informatique. C'était toujours en bas de la liste au ministère de la Santé. Donc, il y a du travail à faire. On a commencé à le faire. On travaille fort, entre autres, sur la saisie de données. On me dit que d'ici une semaine, ça devrait tout être informatisé. Donc, on va arrêter d'écrire 2 morts, mettre ça dans une enveloppe avec un thème pour envoyer 2 morts, là, en 2020. C'est pas normal que ça se fasse ni par la poste, ni par fax, là. Donc, juste vous dire là, que ça avance, mais je reconnais qu'il y a énormément de rattrapage à faire, des investissements qui n'ont pas été faits en informatique, entre autres dans tout le réseau de la santé. Là, on a fait du travail sur le télétravail pendant la pandémie, mais il y a encore énormément de travail qui n'a pas été fait depuis des dizaines d'années au ministère de la santé. Un mot sur l'économie. Bon, vous avez peut-être suivi la période de questions ce matin, vu la réaction des oppositions. Ce qu'on essaye de faire, c'est de se dire, il y a beaucoup de gens qui sont au chômage actuellement. Il y a beaucoup d'entreprises privées qui souffrent dans certains secteurs en particulier, compagnies aériennes, les hôteliers, les restaurants. Et il y a une opportunité là de devancer des projets d'infrastructure pour construire des écoles, des hôpitaux, des maisons des aînés, du transport en commun, des tramways, des ponts, des routes, qu'on aurait dû faire de toute façon. Mais l'idée, c'est de devancer ça, de dire, dès les prochaines semaines, on voudrait comme sauter des étapes. Bon. C'est normal de voir les partis d'opposition dire « Wow, vous voulez sauter des étapes, là, mais comment on fait pour s'assurer quand même que, par exemple, les règles environnementales soient suivies? » Puis là, je veux être bien clair, là, notre objectif, c'est pas de réduire les exigences, c'est de réduire les délais, d'aller plus vite pour mettre le plus vite possible des Québécois au travail. Puis on est très ouvert à discuter d'ajustements au projet de loi avec les partis d'opposition. On a fait un petit calcul. Quand on regarde les projets qui sont les 202 projets, là, il y en a à peu près 60 % qui c'est dans des comtés de la CAQ, puis 40 % dans des comtés des partis d'opposition, ce qui représente à peu près la répartition du nombre de députés, quoi qu'on on voudrait en avoir plus que 60 % là, donc pas négliger les autres comtés. Mais tout ça pour vous dire, là, je voudrais pas qu'on tombe dans la partisanerie. L'objectif, c'est de faire travailler du monde le plus vite possible. On veut pas tourner dans les patentes là, qu'on a vues à la commission Charbonneau parce qu'on va trop vite. On veut pas non plus ne pas respecter toutes les exigences environnementales. Mais je pense que tous les Québécois vont être d'accord pour dire au Québec, c'est vrai comme ça beaucoup dans le monde, là, mais au Québec, c'est bien trop long entre le moment où on décide de faire un projet puis le moment où on commence à construire. Les étapes, la bureaucratie, les délais sont beaucoup trop longs. Donc là, il y a une opportunité de dire, on crée des jobs dans les prochains mois en devançant des projets d'infrastructure qu'il faudrait de toute façon faire, là, des projets utiles en transport, dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation. Donc, je souhaite que les partis d'opposition, puis que nous autres aussi, qu'on mette tous un peu d'eau dans notre vin pour être capable de s'entendre pour devancer ces projets de loi-là. Je termine en... c'est à mon tour là, de donner un certain avertissement. Je le disais tantôt, on sent que malheureusement, les consignes sont moins suivies depuis quelque temps. Donc, c'est important, si on veut pas revenir en arrière, puis reconfiner, de recommencer à fermer des commerces, le sport ou peu importe, bien, c'est important de suivre surtout nos trois consignes. Donc, on reste à 2 mètres, on se lave les mains avec du savon régulièrement, puis on porte un masque. Je suis content de voir qu'il y en a qui le portent. Donc, c'est très bien. Good afternoon. Today, we're announcing a new step in our reopening plan. Minister Isabelle Charest, who's also an Olympic medalist, is here to talk about sports. Isabelle has good news for our young people who want to restart their sport. There will be new protocols with sports federations to restart training, and we're making progress to restart games as well. I will let my colleague explain all the details. But I want everybody to understand that this is a gradual plan. I understand those who want to reopen their sector as soon as possible, but we must follow the steps and be patient. And above all, we must not stop our individual efforts against the virus. We're going in the right direction, but we don't want to backtrack. We must keep our discipline. We must continue to keep our distances, to wash our hands, and to wear a mask in public. I'm counting on you all. Thank you. Sur ce, je passe la parole à la ministre Isabelle Charest.
Merci, Monsieur le Premier ministre. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de remarquer le masque que je portais, qui m'a été gracieusement offert par Baseball Québec. Donc, évidemment, ça augure une belle nouvelle aujourd'hui. Il y a quelques semaines, on annonçait la première phase de déconfinement des activités sportives de loisirs et de plein air, comme le golf, le tennis, le vélo de montagne. Et ça, évidemment, ça a fait beaucoup d'heureux. Mais toutefois, on sait très bien que plusieurs attendent toujours le retour de leur sport favori, principalement les jeunes. Alors, la situation actuelle est encourageante, de sorte qu'on a eu enfin le feu vert de Santé publique pour passer à la prochaine phase de déconfinement. J'ai donc aujourd'hui le plaisir de vous annoncer la reprise progressive, et j'insiste sur progressive, des sports collectifs extérieurs à compter du 8 juin. Le soccer et le baseball, entre autres, pourront reprendre graduellement dès cette date pour vous qu'ils respectent les règles de distanciation, les activités se déroulent à l'extérieur. Donc, voilà, les règles de distanciation de 2 mètres doivent être respectées en tout temps. Dans un premier temps, les activités se dérouleront sous la forme d'entraînements supervisés ou de concours d'habileté. Une nouvelle directive qui permettra aux jeunes Québécoises et Québécois de renouer progressivement avec leur sport préféré. Et pour encadrer cette pratique sportive dans la phase d'entraînement, les fédérations sportives, dont je salue le travail d'ailleurs, qui ont travaillé très fort à élaborer des guides de reprise pour les joueurs, pour les entraîneurs et les organisateurs pour recommencer les activités, tout en respectant évidemment les principes de distanciation physique. Concernant la reprise des matchs dont vous avez fait allusion, pour les sports d'équipe, ils pourraient reprendre dès la fin du mois de juin. Cependant, les guides qui auront été préparés par les fédérations devront être approuvés par la santé publique. Alors, on se croise les doigts. Si tout va bien, à la fin juin, on va pouvoir reprendre une forme de match pour les sports d'équipe. Déjà, je vous le dis, Sport Québec, Baseball Québec, Hockey Québec et une trentaine de fédérations sportives ont préparé des protocoles de reprise qui seront analysés dans les prochains jours. Évidemment, on le rappelle, plusieurs adaptations devront être faites afin que la pratique des sports d'équipe permette à tous de demeurer en sécurité. Comme je le mentionnais lors de la première phase de reprise, il faut être conscient que le sport ne se jouera pas de la même façon cet été. Il faut être conscient qu'il y aura beaucoup d'adaptations à faire, mais j'ai quand même confiance que le plaisir sera au rendez-vous et je suis convaincue que nos jeunes, et certains moins jeunes aussi, pourront se réjouir de l'annonce d'aujourd'hui. En plus du retour des sports d'équipe, je confirme aussi que dès le 8 juin, les piscines privées ouvertes au public, par exemple les campings, pourront aussi rouvrir. Un guide a été préparé par l'Association des responsables aquatiques du Québec pour accompagner les propriétaires. Et finalement, la pratique supervisée de sport individuel est aussi maintenant permise. Comme les cours de yoga ou les activités de plein air guidées pourront des activités qui se déroulent à l'extérieur, bien entendu, dans le respect de la consigne du 2 mètres, pourront aussi reprendre le 8 juin. Les nombreux adeptes de ces activités pourront se référer aux fédérations sportives québécoises ou aux organismes nationaux de loisirs qui mettront à leur disposition des guides de reprise des activités. En terminant, j'aimerais souligner et féliciter la patience des jeunes. Je sais, ils ont très hâte de retrouver leur sport, leurs activités. Alors, je les remercie de leur solidarité, je les remercie de leur résilience. Je peux imaginer à quel point c'est difficile pour eux d'être privés de leur passion. Alors, merci, puis gardez espoir, ça s'en vient. Et je pense que l'annonce d'aujourd'hui est un premier pas vers un retour encore plus grand. Et pour ceux qui vraiment sont affectés par la situation, je vous rappelle aussi qu'il y a des ressources, SportAid, entre autres, qui peut donner des ressources, qui peut être une écoute aussi pour les athlètes, pour les parents, mais aussi pour les entraîneurs. Mais je pense, encore une fois, que l'annonce d'aujourd'hui donne de l'espoir à tous ceux qui ont hâte de retrouver leurs activités favorites. Et je m'en réjouis et très contente de pouvoir vous annoncer ça aujourd'hui. Merci.
Très bien, je vous remercie. Alors, pour la période des questions en français, nous allons débuter aujourd'hui avec Marie-Michèle Sioui, Le Devoir.
Oui, bonjour. En fait, vous dites qu'avec le projet de loi 61, M. Legault voulait remettre des Québécois au travail. Les chantiers de construction sont déjà ouverts, donc quels Québécois vous voulez remettre au travail? En fait, en quoi les chantiers vont profiter aux travailleurs de l'hôtellerie ou de la restauration, par exemple?
Bien, d'abord, ce pas tous les travailleurs de la construction qui sont au travail. Actuellement, il y a beaucoup de projets privés qui sont annulés ou reportés. Donc, ce qu'on veut faire, c'est de remplacer un peu le secteur privé par le secteur public, puis s'assurer, là, moi je l'ai dit souvent, je souhaite dans les prochaines semaines qu'il n'y ait pas un travailleur ou travailleuse de la construction qui soit chez eux, mais que tout le monde soit au travail. Puis en construisant des écoles, des hôpitaux, des routes, du transport collectif, ben on va pouvoir faire travailler tous ces gens-là.
Toujours au sujet du projet de loi 61, est-ce que c'est quelque chose que vous ne souhaitez pas de devoir prolonger l'état d'urgence sanitaire pendant 2 ans?
Ben, écoutez, on ne sait pas, là. Je pense que personne ne sait ce qu'il y aura une deuxième vague, combien ça durera de temps. On ne sait pas. On ne sait pas.
Est-ce que ça peut être utile pour vous, en fait, de le garder en vigueur pendant 2 ans?
Ben, utile. Moi, si j'étais capable de savoir que demain matin, il y a un vaccin puis qu'on a plus besoin de l'urgence sanitaire, là, je serais le gars le plus heureux, mais on peut pas actuellement le savoir combien de temps. Des experts qui disent que ça peut être un an, deux ans, peut-être plus même.
Merci.
Prochaine question, Hugo Pilon-Larose, La Presse.
Bonjour à tous. La vérificatrice générale, hier, manifestait son inquiétude par rapport à l'accélération des mises en chantier dans le contexte où elle disait, déjà en temps normal, le ministère des Transports manquait de rigueur quant à l'estimation des coûts des projets. Craignez-vous que l'accélération que vous voulez faire de mise en chantier pourrait entraîner une hausse des coûts? Est-ce qu'on va payer le gros prix, finalement, là, pour accélérer tout ça?
Bien, d'abord, comme je le disais, actuellement, malheureusement, c'est pas tout le secteur de la construction qui est occupé. Donc, techniquement, par le jeu de l'offre et la demande, on peut avoir une certaine assurance qu'il n'y aura pas une surinflation parce qu'il y a trop de projets par rapport à la capacité du secteur de la construction. Mais il faut toujours être prudent, puis il faut... s'assurer, quand on dit qu'on va aller plus rapidement, là, il y a toutes sortes de délais des différents ministères, c'est très long. Et je donnais ce matin l'exemple de la ligne bleue du métro de Montréal. Ben là, on me dit, là, par exemple, si on n'avait pas un projet comme ça, là, il pourrait ne rien se passer pendant les deux prochaines années. Parce que c'est compliqué, là. Il y a des expropriations, il y a des schémas qui doivent être faits. Nous, ce qu'on veut, ça soit bien fait, mais fait rapidement. Puis évidemment, de mettre en compétition les gens. Puis moi, j'ai très confiance en Christian Dubé, puis le président du Conseil du Trésor, puis là, les différents ministres. Il y a trois ministres qui sont surtout impliqués, là. Donc, il y a la santé, il y a l'éducation, puis il y a le transport. Et on fait attention dans les trois ministères, là, qu'on s'assure qu'on obtienne les meilleurs prix possibles.
Sur le succès que vous avez mentionné là, du recrutement, de la campagne de recrutement pour des préposés en CHSLD, j'aimerais comprendre comment vous pouvez prévenir l'exode des travailleurs, pas nécessairement des préposés bénéficiaires, mais des travailleurs qui sont dans les résidences pour personnes âgées ou dans les ressources intermédiaires. D'ailleurs, on m'explique que dans les ressources intermédiaires, les préposés n'ont pas la formation pour pouvoir travailler en CHSLD. Donc, plusieurs pourraient décider d'être intéressés, de la suivre, cette formation-là, et quitter le réseau des ressources intermédiaires. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour empêcher cet exode, un exode qui pourrait survenir à quelques semaines ou mois d'une deuxième vague? Là, on pourrait créer un problème ailleurs pour une deuxième vague.
Bon. D'abord, les 79 000 personnes qui ont appliqué là, sont des gens qui sont intéressés à s'occuper de nos aînés, mais qui n'ont pas de formation comme préposés aux bénéficiaires. Donc, ça, c'est important de garder ça en tête. Là. On va former plus de gens. Il y aura 10 000 personnes de plus au Québec qui vont être formées pour bien s'occuper de nos aînés. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Est-ce que les résidences qui vont perdre des gens pas formés, vont être capables de trouver de nouvelles personnes pas formées pour l'instant, pour les remplacer, bien là, avec la permission des 69 000 personnes qui n'ont pas été choisies, on pourrait au moins envoyer ces CV-là. Il y a 10 000 personnes aussi dans notre réseau qui sont venues travailler avec Je contribue de façon temporaire, des gens encore là pas formés. Ce qu'on est en train de regarder entre la santé et le trésor, c'est aussi, bon, déjà, on a offert des compensations financières. Puis, comme je disais tantôt, il y a des résidences qui sont conventionnées. Donc, c'est nous autres qui demandons service au privé. Puis là, bien, les tarifs qu'on paye doivent être ajustés. Mais il y a des grandes résidences, là, qui est-ce qu'ils ont besoin d'aide? Bien, tu sais, à un moment donné... Il y a un équilibre à avoir entre le salaire qu'on paye nos employés puis le profit qu'on tire. Là, donc, ça, c'est la vraie vie du secteur privé. Moi, je pense que, puis je l'ai déjà dit, je pense que les salaires, de façon générale, vont devoir augmenter dans le secteur privé.
Prochaine question, Olivier Bossé, Le Soleil.
Bonjour, Mme Charest. Qu'en est-il, vous avez parlé de la reprise des matchs, peut-être, à la fin juin. Qu'en est-il des équipes d'élite ou même professionnelles mineures ou comme les Capitales, par exemple, qui jouent en stade extérieur? Est-ce qu'ils peuvent penser avoir une saison dans le sens du monde cette année?
Oui, bien, en fait, ça sera en concordance avec la santé publique. C'est sûr qu'on travaille avec eux, avec les protocoles, puis la santé publique, puis monsieur Dr. Arruda pourra compléter. Mais déjà, la fin juin, là, c'est une date qui est déjà avancée là, pour des formes de match.
Dr. Arruda, effectivement, écoutez, d'où l'importance, puis je vais répéter encore, vous allez me trouver... D'où l'importance que les gens respectent les consignes pour pas qu'on aille à revenir en arrière là, dans les fêtes. On y va par étapes. On y va maintenant vers une adaptation. Puis je tiens à souligner le travail qu'on fait notamment avec les différents groupes. Ici, c'est les fédérations sportives, etc., pour vraiment réouvrir mais de façon sécuritaire, modifiée par rapport à antérieurement. Mais on va revenir à la normale si jamais tout ça est respecté le plus possible. Puis je voudrais en profiter pendant que j'ai la parole, si vous permettez, M. le Premier ministre, c'est qu'il y a des patients aussi maintenant qui ont des rendez-vous avec leur médecin dans leur propre groupe de médecins de famille qui n'osent pas y aller parce qu'ils ont peur de l'attraper de la COVID-19. Tu sais, quand on dit de faire attention, etc., mais ça ne vise pas des gens qui ont des besoins de santé. Donc, je veux dire, il faut faire attention, vous portez le masque quand vous sortez, vous allez prendre votre distanciation, mais il ne faut pas éviter les cliniques médicales actuellement, là, si vous avez des besoins, parce qu'il ne faudrait pas que ça vous emmène vers la maladie, alors qu'on peut prévenir certaines choses, ou du moins rester stable au point de vue de votre état de santé. Fait que je voulais quand même le mentionner en termes de santé publique. Et je répète encore, malgré tout le vent de l'été, malgré toute cette impression de liberté qui nous revient, une liberté contrôlée, si je pourrais dire, j'appellerais liberté conditionnelle, il faut respecter les consignes pour que ça continue à bien aller. On est heureux de voir que les indicateurs vont dans le bon sens, mais vous le savez, particulièrement dans la région métropolitaine, c'est fragile.
C'était le point de presse du premier ministre François Legault, accompagné du directeur de la santé publique, Horacio Arruda, et de la ministre des Sports, Isabelle Charest. Essentiellement, aujourd'hui, la nouvelle, c'est que le gouvernement commence un déconfinement graduel au niveau des sports d'équipe. À compter du 8 juin, les jeunes et les moins jeunes vont pouvoir jouer notamment au baseball ou au soccer, là, donc les différents sports d'équipe. Mais ce sera évidemment que pour des entraînements. Pour ce qui est des matchs comme tels, on dit que d'ici la fin du mois, si tout va bien. Puis il y a aussi une bonne nouvelle pour les piscines là, qui vont pouvoir rouvrir à compter du 8 juin. On prend une courte pause. Restez là. Au retour, je sois un QSIS ou un solidaire qui vient nous expliquer que le coronavirus, ça pourrait être un Klondike de mesures progressistes. Donc lui, il voit le coronavirus comme une opportunité d'augmenter la présence de l'État et de mettre en place le programme de Québec solidaire. On va y jaser au retour de la pause.